Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre Luce, ancien référent départemental de Renaissance dans les Yvelines, militant des jeunes avec Macron. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va parler de la réforme des retraites. Pierre Luce, 72% des Français se disent opposés à ce projet. Toutes les catégories socioprofessionnelles rejettent ce texte. À présent, toutes les classes d'âge aussi, y compris les retraités actuels. Alors, à quelques jours de l'examen du texte à l'Assemblée, quel regard portez-vous sur la façon dont est conçue cette réforme ?
Vous savez, cette réforme, elle est d'abord courageuse. C'est évident que c'est pas populaire de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Mais on peut pas faire que des réformes qui soient populaires. Il y a un moment où notre système social, il se paie. Et ici, le coût est élevé, celui de notre système de retraite. Si on veut conserver un système par répartition qui met en œuvre la solidarité nationale. Peu de gouvernements ont le courage de lancer de telles réformes, encore moins arrivent à les mener au bout. Et j'espère que celle-ci, elle aboutira parce qu'elle est non seulement courageuse, mais elle est aussi absolument nécessaire si on veut pouvoir financer nos retraites dans 30, 40 ou 50 ans.
Alors que répondez-vous, Pierre Luce, à l'opposition de gauche qui estime qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime pour imposer cette réforme, car ses électeurs du second tour ont voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite et non pas pour qu'il applique son programme?
C'est l'argument un peu facile qu'on entend essentiellement chez des militants politiques qui n'ont pas passé la barrière du premier tour à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était largement premier à ce premier tour. Il a fait de cette réforme un élément central de son programme. Les Français l'ont élu en connaissance de cause. Il a toute légitimité pour mener cette réforme.
Est-ce qu'on peut envisager sérieusement qu'une aide-soignante, les personnels des EHPAD, des femmes de ménage, les employés du bâtiment travaillent jusqu'à 64 ans ?
Cette question, en vérité, elle se pose pour tous les métiers physiques, tous les métiers à posture, mouvements répétitifs ou difficiles, que ce soit en EHPAD, dans la police, sur le toit d'une maison, dans une usine. C'est pour ça que l'âge légal n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. La réforme apporte des évolutions sur beaucoup d'autres choses. Une meilleure prise en compte de la pénibilité, des situations d'incapacité, d'inaptitude, travailleurs en situation de handicap, elle accompagne dans la reconversion en fin de carrière. C'est pas parce que vous pouvez plus porter de charge à arriver à 59 ou 60 ans que vous êtes plus bon à rien. Par contre, pour pouvoir continuer, il faut être formé, il faut être accompagné, il faut être dans un environnement adapté. C'est aussi ça le but de cette réforme.
Alors, le gouvernement a retiré 4 facteurs de risque pour la prise en compte de la pénibilité. Le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques, ce qui exclut du dispositif actuel, je ne parle pas de la réforme en cours, les déménageurs, les ouvriers du bâtiment ou les coiffeurs. Est-ce qu'il faut réintroduire ces critères de pénibilité ?
La principale critique qu'on apporte souvent au système de gestion de la pénibilité, c'est qu'elle est très difficile à mettre en œuvre. Les critères sont très nombreux et en les multipliant, on rend le dispositif illisible et on ne le rend pas forcément plus juste pour autant, puisque rapidement, tout le monde se retrouve couvert par un facteur ou plusieurs facteurs. Donc, le compte professionnel de prévention, c'est comme ça qu'on appelle le compte qui gère l'exposition aux facteurs de pénibilité, il va être rendu plus utile par la réforme qui est présentée cette semaine. Il sera déplafonné, ça veut dire que vous serez plus limité dans le temps à l'accumulation de droits liés à ces facteurs de pénibilité. Ils vous permettront d'être acquis sans limite ces droits. Vous en aurez par exemple droit à plus de formation en fin de carrière pour la reconversion. Ça apportera aussi, par exemple, un meilleur suivi médical pour partir en retraite anticipée. C'est en fait la véritable réforme, la véritable nouveauté là-dessus, ça va être de rendre plus effectifs les droits qu'on acquiert suite à l'exposition à des facteurs de pénibilité.
Pierre Luce, la crainte de nombreux Français de plus de 50 ans, c'est de se retrouver longtemps au chômage sans pouvoir toucher sa pension de retraite. Sur l'emploi des seniors, le gouvernement envisage la publication d'un index qui permettrait de connaître les grandes entreprises vertueuses et celles qui n'emploient pas de seniors. Il pourrait y avoir une pénalité financière pour les entreprises qui ne sont pas transparentes.
La problématique de l'emploi des seniors, elle est liée à plein de facteurs et mécaniquement, le décalage de l'âge légal de départ à la retraite va permettre de faire travailler les personnes de plus de 50 ans un peu plus longtemps. Pourquoi ? Parce que en fait, le départ à la retraite est souvent un des facteurs qui vont rendre réticentes les entreprises à l'embauche d'un senior. Elles vont pas vouloir investir dans le recrutement d'un profil qui partirait quelques temps après. Donc mécaniquement, ça va décaler l'âge à partir duquel va commencer cette discrimination. Mais c'est pas le seul point qui va évoluer, puisque grâce à l'amélioration des formations et de la reconversion en fin de carrière, on aura des personnes arrivées à 50, 55 ans qui pourront être formées à des métiers sur lesquels leur expérience apportera quelque chose de complémentaire à l'entreprise, notamment dans les métiers physiques. Sur l'index senior, les entreprises qui ne le publient pas seront sanctionnées, mais surtout, c'est un index qui sera publié et qui pourra être utilisé lors des négociations collectives au sein de l'entreprise pour repasser en revue la gestion des parcours professionnels au sein de l'établissement.
Mais la reconversion d'un salarié âgé est peut-être possible dans une grande entreprise, dans une PME. Parfois, si un travailleur ne peut plus exercer un travail physique, on a besoin d'engager un jeune et l'entreprise n'aura pas les moyens de garder ce senior.
C'est là-dessus justement qu'il faut travailler. C'est peut-être faciliter aussi le passage de ces seniors d'une entreprise à l'autre où ils peuvent apporter une expérience importante, pas forcément dans la même entreprise, mais vous savez, les Français restent de moins en moins longtemps dans les entreprises, et je pense qu'on arrive à des modèles de carrière où faire toute sa carrière dans la même entreprise est moins courant. Il faut aussi s'adapter à ça.
Que répondez-vous à la gauche qui affirme que cette réforme ne se justifie pas d'un point de vue financier ? La semaine dernière, le président du Conseil d'orientation des retraites a déclaré à l'Assemblée que les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont selon lui relativement maîtrisées et qu'elles diminuent plutôt à terme.
C'est une citation un peu tronquée ou en tout cas insuffisante. Pourquoi ? Parce que effectivement, les dépenses ne dérapent pas, mais ce sont pas les dépenses qui comptent, c'est l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Et là-dessus, le rapport du Conseil d'orientation des retraites est extrêmement clair. Je peux vous le citer, je vous le dis, sur les 25 prochaines années, le système de retraite sera en moyenne déficitaire, quelle que soit la convention et le scénario retenu. Déficitaire, quelle que soit la convention et le scénario retenu. Le seul cas où il reviendrait à l'équilibre, en fait, c'est le scénario le plus optimiste en termes de croissance économique. C'est-à-dire que le moindre pète, le moindre Covid ou guerre en Ukraine qui mettrait en difficulté notre économie, on serait plus à l'équilibre. Et l'opposition, quand elle met en avant cet argument-là, elle est doublement malhonnête, parce que déjà, elle ne présente que le meilleur scénario possible. Et en plus, elle omet une autre variable importante, c'est que même dans ce scénario optimiste, le niveau de vie des retraités diminue d'ici 2070, si on ne fait rien. Donc, dire aujourd'hui que ça n'est pas nécessaire, ça veut dire aux futurs retraités, c'est-à-dire aux jeunes de maintenant, en 2070, vous serez 12 à 25% plus pauvres que les retraités de maintenant. Je ne suis pas sûr que ça soit une mesure de justice.
Mais quand Emmanuel Macron travaille au plein emploi en France, s'il réussit son pari, c'est-à-dire à faire baisser durablement le chômage, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de reporter le départ de l'âge à la retraite.
Le corps a pris en compte l'évolution du chômage, notamment dans la revue de ses projections. Le problème du chômage, c'est que c'est aussi très lié à la croissance économique. C'est-à-dire que, encore une fois, ne compter que sur une diminution du chômage, c'est prendre le risque de remettre l'équilibre en cause à la moindre crise économique. Est-ce qu'on a envie, je ne sais pas, d'ici 20 ou 30 ans, en cas de catastrophe quelconque, qu'évidemment on ne souhaite pas, de dire aux retraités, en fait, on va diviser par deux vos pensions parce qu'on ne peut plus les financer. Je ne pense pas qu'on veuille faire ça.
Alors, il y a beaucoup de perdants dans cette réforme, si on écoute l'opposition, notamment les femmes, comme l'a reconnu le ministre Franck Riester. Est-ce qu'il y a des gagnants ?
C'est apparemment une réforme qui est faite pour avoir des gagnants. On repousse l'âge légal de départ à la retraite, donc les gens vont travailler plus longtemps, d'une manière générale. Il y a quelques cas, notamment pour les personnes en situation de handicap, qui pourront avoir une retraite anticipée avec un seuil d'invalidité plus bas que maintenant. Où les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, ils verront aussi faciliter l'accès à une retraite anticipée. Mais les vrais gagnants, c'est l'ensemble des actifs, de maintenant, qui pourront continuer à bénéficier d'une retraite dans 30 ans ou dans 40 ans, une retraite par répartition qui sera financée par la solidarité nationale, par les travailleurs de ce moment. C'est la grande difficulté de cette réforme. On demande au fond un effort maintenant dont on verra les bénéfices que dans plusieurs décennies. On peut pas, ce ne sont pas des effets immédiats, on ne peut pas mesurer qui gagne et qui perd.
Alors Pierre Luce, le gouvernement a annoncé une pension minimale à 1200 euros, mais c'est 1200 euros brut, et pour une carrière complète, est-ce que sur ce sujet, des ajustements sont possibles ?
Alors, ce qui est très important à retenir, c'est que l'annonce ne parle pas de 1200 euros, mais de 85% du SMIC et d'une évolution qui sera indexée sur l'évolution du SMIC. C'est ce qui manquait à la réforme précédente qui avait aussi instauré une retraite minimale, mais qui ne suivait pas l'évolution du SMIC. Donc oui, je pense que probablement des ajustements sont possibles. Il faudra voir au cours du débat parlementaire et... Mais toujours en ayant à l'esprit en fait que ces ajustements financiers, ils doivent être financés justement. Le point essentiel de la réforme est ici. Je pense que le gouvernement sera prêt à faire des efforts sur ce point s'il y a des solutions de financement.
Pierre Luce, les Français ne veulent pas travailler 2 ans de plus, le gouvernement en est conscient. Pour mettre le système des retraites à l'équilibre, est-ce qu'il serait possible de trouver d'autres solutions que ce passage à une retraite à 64 ans ?
Vous savez, depuis le début, le système des retraites a un fonctionnement qui est relativement clair et qui tourne autour du facteur de l'âge de départ, qui concerne en fait le temps de la durée de cotisation en partie. Mais les autres solutions, c'est la diminution des pensions des retraités ou l'augmentation des cotisations. Je vous laisserai juge de la popularité de ces mesures, mais je ne suis pas certain qu'il y ait plus de Français qui soient favorables. En tout cas, c'est certain que les retraités ne seront pas favorables à la diminution de leurs pensions, et je ne suis pas sûr que les salariés soient favorables à l'augmentation de leurs cotisations.
Qu'est-ce que vous attendez des débats parlementaires sur cette réforme extrêmement clivante ? Si j'ai bien compris la France insoumise, il n'y aura pas de travail d'obstruction à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement écoutera aussi les propositions de l'opposition ?
Le gouvernement semble avoir assez clairement affiché qu'il était à l'écoute et que des portes de négociation étaient ouvertes. Je pense qu'il faudra voir effectivement la teneur des amendements qui seront déposés par les oppositions. J'entends avec joie que la France insoumise ne se livrera pas à son obstruction habituelle, mais j'attends de voir la réalité, voir s'ils se tiennent à cette parole.
Alors, il est question donc de supprimer aussi les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants dans certaines professions. C'est ce que l'on appelle la clause du grand-père. C'est une mesure qui vous paraît nécessaire, la suppression des régimes spéciaux de retraite ?
Écoutez, moi je pense que les régimes spéciaux souvent sont issus de négociations de branches ou d'accords collectifs souvent anciens et qui se justifient plus nécessairement par des suggestions particulières au regard de l'emploi effectué. Vous prenez un employé de bureau à EDF, un employé de bureau à la Banque de France ou un employé de bureau dans une industrie. Ils n'ont pas des conditions de travail différentes, il n'y a rien qui justifie qu'ils n'aient pas le même régime de retraite, particulièrement quand ces régimes sont en plus déficitaires. Donc oui, moi ça me paraît nécessaire de supprimer les régimes dont l'existence n'est pas justifiée objectivement.
Pierre Luce, la presse parle beaucoup de la procédure parlementaire sur cette réforme, l'article 47.1 de la Constitution, beaucoup moins connu que le fameux 49.3. Concrètement, c'est une procédure accélérée, 20 jours de débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est suffisant pour une réforme de cette ampleur ?
Alors, l'article 47.1 de la Constitution, en fait, c'est l'article qui est utilisé à chaque fois qu'on vote une loi de financement de la sécurité sociale. Elle a été utilisée Il a été utilisé, cet article, à l'automne pour la loi de financement 2023 et qui prévoit effectivement une procédure en fait de sauvegarde, on va dire, si jamais les débats devaient durer trop longtemps, et notamment ce qui arrive souvent quand il y a de l'obstruction parlementaire, il prévoit que le gouvernement puisse couper court à ces débats interminables et rarement productifs s'ils durent aussi longtemps, afin de pouvoir quand même mettre en vigueur les dispositions. Je pense qu'il y a peu de risques que l'on arrive dans cette situation, ça n'est jamais arrivé, et je ne pense pas, si les débats se déroulent calmement et en toute sérénité, je ne pense pas qu'on en arrive là. Le texte est relativement court, il va droit au but, je ne pense pas qu'on en arrive à ces extrémités.
Pierre Luce, une deuxième journée de grève est prévue le mardi 31 janvier. Entre 1,2 et 2 millions de personnes ont défilé la semaine dernière. Deux autres journées sont prévues début février, avec peut-être un mouvement reconductible. Redoutez-vous un blocage du pays ?
Il est normal que les gens s'inquiètent et expriment un désaccord avec cette réforme. Comme je vous le disais, c'est pas une réforme populaire. Il y avait évidemment beaucoup moins de monde pour manifester quand on a supprimé la taxe d'habitation. Néanmoins, je pense qu'il faut faire force d'explication pour faire comprendre aux salariés que c'est leur retraite qui est défendue, c'est l'existence même de leur retraite qui est défendue. Et que ça ne se fait pas de gaieté de cœur, mais qu'il n'y a pas réellement d'alternative plus favorable à cette réforme.
Dans les raffineries de Total Energy, la CGT recense 100% de grévistes dans le Nord, 80% en Normandie, 30% en Seine-et-Marne. Est-ce que c'est de nature à faire reculer le gouvernement ?
Écoutez, je ne sais pas. C'est un poids de négociation de la part des syndicats qui, comme souvent, prend en otage une partie de la population et plus particulièrement la population qui est souvent qui a souvent le plus besoin de se déplacer, le plus besoin de mettre de l'essence dans sa voiture ou de prendre le train. C'est une technique habituelle. Je ne suis pas certain que ce soit de nature à faire changer radicalement d'avis le gouvernement sur la réforme des retraites. Non.
Dernière question, Fabien Roussel a demandé aux maires de soutenir la mobilisation en fermant quelques heures les mairies. Ce sera le cas à l'Hôtel de Ville de Paris, c'est ce qu'a annoncé la maire Anne Hidalgo. Que pensez-vous de cette initiative ?
Je pense que Fabien Roussel serait tout intérêt à travailler avec les parlementaires de son bord politique pour proposer des amendements utiles. Fermer les mairies, ça va surtout handicaper les personnes qui ont besoin d'aller en mairie, les gens qui parfois prennent une demi-journée pour y aller. Bref, je pense pas que ça soit très utile. Je pense que ça gêne un peu toujours les mêmes personnes et surtout ça fait pas avancer le chemin public, quoi. Ça aide pas à financer les retraites pour les générations à venir.
Merci Pierre Luce. Je rappelle que vous êtes ancien référent départemental de Renaissance dans les Yvelines et militant des Jeunes avec Macron. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.